Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Pour la revue de presse internationale, l'actualité internationale est dominée ce mardi par les élections de mi-mandat aux États-Unis, un scrutin multiple, complexe et dont l'issue reste incertaine jusqu'au bout. Alors, pour influencer le comportement des électeurs, certains brandissent des risques de fraude et de manipulation.
Oui, certains, à commencer par Donald Trump et son procureur général Jeff Sessions. C'est le Washington Post qui en fait sa une. Le président en personne hier mettait en garde contre ce qu'il qualifie de vote illégal, vite rejoint par son conseiller justice qui lui a rappelé que les fraudes ne seraient pas tolérées car elles corrompent l'intégrité du scrutin. On pourrait y voir de simples rappels à la loi à la veille du vote, mais cette insistance intrigue les journaux américains. D'autant plus, et même le conservateur Washington Examiner le souligne, que les agences fédérales FBI en tête n'ont relevé aucune indication selon lesquelles la machine électorale américaine serait menacée. Pas de signe en particulier d'une influence étrangère russe, pour le dire clairement. Car c'est bien ce spectre-là qui occupe toute la place dans les esprits, la possibilité de voir se reproduire les manipulations d'opinion de la présidentielle de 2016, tâche indélébile sur l'élection de Donald Trump. Sauf que, cette fois, le Washington Post nous le répète, aucune preuve ne vient appuyer les mises en garde contre les fraudes électorales qui sont brandies par le camp présidentiel. En jouant cette carte selon des ONG de défense des droits des électeurs, la Maison-Blanche essaye en fait d'intimider ceux qui hésiteraient encore à se rendre aux urnes. Les règles de contrôle accrues, disent ces associations, sont beaucoup plus dissuasives pour les électeurs issus de minorités ethniques qui votent en général démocrates. Plutôt que de tenter d'empêcher les citoyens d'aller aux urnes, nos dirigeants auraient mieux fait de débattre sur les idées, regrette Catherine Rampel, toujours dans le Washington Post. L'éditorialiste énumère les États où la constitution des listes électorales a donné lieu à des arrangements suspects. Elle cite en particulier la Géorgie, État décisif convoité par les démocrates, où le secrétaire d'État Brian Kemp, qui se trouve aussi être candidat républicain au poste de gouverneur, a fait rayer des listes 50 000 personnes, pour la plupart afro-américaines, pour des raisons aussi dérisoires parfois qu'un simple trait d'union mal placé dans un nom de famille. On le voit donc, l'intransigeance affichée face au risque de fraude n'est pas sans arrière-pensée politicienne. Le risque, enfin pointé par le Washington Post, c'est que cette intransigeance affichée ne prépare sciemment le terrain à une contestation par les républicains des résultats si ceux-ci devaient tourner en leur défaveur.
Et puis à New York, s'est ouvert hier le procès du plus grand trafiquant de drogue de ces dernières décennies, le Mexicain Joaquin Guzman, alias El Chapo.
Oui, le courteau, comme on désigne cet homme d'1m63 qui a pourtant régné depuis la fin des années 80 sur le cartel de Sinaloa, accusé d'avoir inondé le marché américain de milliers de tonnes d'héroïne, cocaïne, marijuana et autres méthamphétamines jusqu'à son arrestation en 2014 et son extradition l'an dernier vers les États-Unis. Sur son site web, le journal mexicain El Universal dresse le CV du plus grand criminel du 21e siècle.
Joaquín Guzmán Loera construyó uno de los mayores imperios criminales de la historia y es considerado el narcotraficante más huidizo por sus fugas de cárceles de alta seguridad, además de dirigir uno de los cárteles más exitosos.
El Chapo, célèbre, nous dit-on, par ses évasions spectaculaires des prisons les mieux gardées du Mexique, et criminel exceptionnel. Pour lui, il fallait donc un procès hors norme, nous le dit la presse du Mexique. Selon la Jornada, les audiences pourraient durer 4 mois à New York dans des conditions de sécurité et de confidentialité maximum, tant les risques sont grands pour les témoins et les 12 jurés. Ce procès va marquer le quotidien des New Yorkais, nous dit aussi la Jornada. Deux fois par jour pour les mois qui viennent, le quartier du palais de justice va être verrouillé par la police pour faire passer les escortes armées de l'accusé, dont on craint toujours une possible évasion, et de tous les participants aux audiences placées sous protection renforcée. Et pendant ce temps, le commerce de la drogue reste florissant pour le cartel de Sinaloa. El Universal, traduit par courrier international, nous apprend que le business a été repris par les deux fils d'El Chapo. Le dernier rapport annuel du Bureau fédéral américain de lutte contre les drogues indique que l'entreprise familiale a encore étendu son empire à l'international l'an dernier avec une production d'héroïne, notamment en forte hausse sur les collines mexicaines qu'il contrôle.
Oui, il y a quelqu'un qui vous écoute, c'est Yasmina Reza, l'écrivain. Elle aime beaucoup les procès, mais vous n'allez pas pouvoir le suivre, le procès d'El Chapo, parce qu'apparemment il y a des conditions de confidentialité dont Camille parlait. On termine, Camille, avec cette phrase pour le moins définitive lue dans El País. Le Portugal a démontré que le néo libéralisme était un tissu de mensonges.
Et cette analyse, on la doit à l'un des grands penseurs du mouvement altermondialiste, le portugais Boaventura de Sousa Santos, docteur en sociologie diplômé de Yale aux États-Unis. Il est toujours titulaire d'une chaire à l'université du Wisconsin et à celle de Coimbra. El País donc l'interroge sur l'avenir des gauches dans cette période réactionnaire que traverse le monde, avec les élections de Bolsonaro au Brésil, de Salvini en Italie ou de Trump aux États-Unis notamment. Santos en appelle infatigablement à l'Union internationale des gauches. car, dit-il, elles seules peuvent sauver la démocratie contre le péril illibéral. Au-delà du vœu pieux et maintes fois entendu de cette union des gauches, le sociologue vante l'exemple portugais. Depuis 14 ans là-bas, la gauche est unie au pouvoir socialiste communiste eurosceptique au sein d'une même majorité, une exception portugaise qui a su déjouer les prophéties catastrophistes des marchés, qui a réussi à faire sortir le pays de l'austérité et à faire baisser le chômage. Il suffisait pour cela, nous dit Santos, que le parti socialiste portugais accepte de faire alliance à sa gauche et non au centre, comme c'est le cas partout ailleurs. En s'unissant autour du refus fondamental du néolibéralisme austéritaire, la gauche portugaise a donc démontré que l'idéologie qui domine le monde peut être renversée. Si cela s'était passé dans n'importe quel autre pays que le Portugal, ce serait à la une des journaux dans le monde entier, nous dit Boaventura de Sousa Santos. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Pour débusquer cette interview, il faut plonger dans les pages idées, bien loin de la une du quotidien El País.
Bah, merci de fouiller dans les journaux pour nous, Camille Magnard. Une autre solution, je ne parle pas à l'échelle collective, mais à l'échelle personnelle, c'est de se sauver grâce à la littérature. C'est ce que fait Yasmina Reza, 7h42.